Je laisse la parole de Dieu travailler mon caractère, me bâtir, m'édifier, édifier les autres. Dis-moi le nombre de temps que tu passes dans la prière, je te dirai qui tu es. Plus tu vas passer le temps dans la présence de Dieu, tu vas ressembler à Dieu. Tu vas développer un caractère qui est propre à Dieu. Même quand ta femme te voit, elle sent que mon mari est un homme renouvelé. Ma femme est une femme renouvelée. Laissez-le paraître. Laissez les paroles. Mais soyons profondément ce que... Et ça, c'est vrai aussi pour la vie chrétienne. La vie chrétienne ne consiste pas à faire. La vie chrétienne consiste à être. C'est pas, vous n'allez pas me voir avec un bord en train de lire. Parce que je vous parle là, c'est le résultat de ma communion avec Dieu. Mais je n'ai pas besoin de bord. Je parle de ce que Dieu me dit. Vous comprenez ce que je dis là? Bon, maintenant, l'alliance que j'ai faite avec Dieu, c'est que moi, je reçois de toi et je communique aux autres. Et ça me rend disponible dans l'œuvre. Ce dont j'ai besoin, c'est de faire quoi? C'est d'allier ma brevet à la source. De dire à l'Éternel, qu'est-ce que tu veux que je communique à ce peuple cet après-midi? Et un homme devrait le faire. Une femme devrait le faire. Consulter Dieu. L'évangéliste Moody affirme correctement cela. Qu'un homme, quand il se lève le matin, avant de voir la face d'un autre homme, devrait d'abord voir la face... Qui réussit cet exploit? Qui réussit ça? Vois d'abord la face de Dieu avant même de voir la face de ta femme. Vois la face de Dieu avant de voir la face de ton mari. Le consulte pour discerner clairement quelle est la volonté de Dieu. La volonté générale, mais beaucoup plus la volonté spécifique. Dans 2 Samuel 2:2, après la mort de Saül, quand David ne sait plus à quel Seigneur se vouer, il dit à l'Éternel, monterai-je? Le Seigneur dit oui, monte. Mais il dit, où monterai-je? Il dit, va à Hébron, va à Hébron, va à Hébron. Parfois, lorsqu'on a le discernement général, on ne se bat plus pour faire, pour discerner de façon spécifique la volonté. Quand Dieu dit à Manoah, le père de Samson, que je te donnerai un fils, il ne se limite pas à ce que Dieu lui a dit. Il consulte encore l'Éternel pour lui demander comment est-ce que nous allons éduquer ce fils. Et c'est là où le Seigneur dit le rasoir ne passera pas par ses... Mais aujourd'hui, tu as des Samson dans ta maison. Mais seulement, ils ont les têtes rasées. Et après, tu vas dire que l'enfant du voisin est plus intelligent que le tien. Vous voyez le paradoxe? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas consulté. On n'a pas consulté Dieu. Le dernier problème que je voudrais, ou le dernier obstacle que je voudrais évoquer, c'est ce qu'on appelle les ajustements, les difficultés d'ajustement.
Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu agisses dans ma vie.
Pour expliquer le concept d'ajustement, je vais dire ceci, nul n'entre dans le mariage en étant parfait. La femme n'est pas parfaite. L'homme n'est pas parfait. Nous n'avons pas une expérience du mariage avant, n'est-ce pas? Hier, nous disions qu'on commence même par le diplôme. Dieu te donne le diplôme avant de dire, ok, tu as la qualification, vis maintenant, je vois. Je te fais confiance. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Il paye au début de mois, pas à la fin du mois. Il paye avant d'envoyer au travail. Bon, les ajustements se situent au niveau où la femme n'est pas parfaite quand il entre dans le couple. L'homme n'est pas parfait quand il entre dans le couple. Maintenant, les ajustements sont un processus continu. Il faut noter ça. Les ajustements sont un processus continu qui tue toute la vie et dans tous les domaines. Je vais expliquer dans les détails. Les ajustements sont un processus continu qui dure toute la vie et dans tous les domaines. Dans le domaine de la sexualité, dans le domaine des rôles, dans le domaine de quoi? De notre témoignage en tant que couple. Je vais prendre un exemple concret pour que nous comprenions ce que c'est que l'ajustement. dois faire pour l'harmonie, pour le bien-être de tout le couple. L'ajustement renvoie à l'ensemble des choses que chaque conjoint doit faire ou ne pas faire, ou s'abstenir de faire pour l'harmonie, pour l'unité, pour le bien-être au sein d'un couple, au sein du couple. Donc, prenons l'exemple du couple Atangana, dans lequel Monsieur Atangana est toujours ponctuel et Madame Atangana est toujours en retard. À votre avis, qui doit faire des ajustements et pourquoi? Qui pense que c'est monsieur qui doit faire des ajustements? Oui, pourquoi? Il doit aider sa femme. Qui pense que c'est madame Atangana? Oui, pourquoi?
Tu agis dans ma vie. J'ai besoin de ton amour, ta grandeur. J'ai besoin.
Merci beaucoup. Les deux réponses sont fausses. Merci beaucoup pour vos contributions. Mais les réponses sont fausses. Parce que j'ai bien dit que ajuster signifie chaque personne fait ce qu'il doit faire ou s'abstient de faire ce qu'il doit, ne doit pas faire pour qu'il y ait harmonie, pour qu'il y ait unité et que les choses se passent bien. Maintenant, qui doit faire des ajustements? C'est qu'Atangana doit faire l'ajustement. Madame Atangana doit faire. Reconnaître, doit admettre que être ponctuel c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il a grandi dans un contexte où on l'a aidé dans ce sens et il a intégré que la ponctualité est un atout, est une force. C'est bien, mais il doit aussi reconnaître que quelqu'un peut faire différemment. Et cette personne qui fait différemment, c'est bel et bien son épouse. Vous voyez un peu. Madame Atangana, de son côté, a besoin de reconnaître que être en retard, ça, c'est pas une bonne. C'est pas une bonne chose. Elle doit s'efforcer, arranger, à orienter, à chercher les causes. Vous voyez un peu? Oui, parce que les causes, les mêmes causes peuvent former les familles, les mêmes effets pour pouvoir ajuster. Est-ce que ça se comprend maintenant? Parce qu'on a parfois comme l'impression que dans les couples, l'un doit faire l'effort, l'autre ne doit rien faire. L'ajustement, c'est au niveau des deux, au sein du couple. Et c'est pourquoi je disais que l'ajustement est un processus continu qui dure toute et dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine dans lequel on ne doit pas ajuster. Parce que nous venons des horizons variés. Nous avons eu des éducations différentes. Nous avons eu des backgrounds différents. Et si vous refusez d'ajuster, vous allez être moins efficace sur le plan de la foi. Vous allez être moins efficace au lieu de service. Vous allez être même moins efficace en tant que
couple.
Donc il vaut mieux payer le prix de l'ajustement que de payer le prix de l'isolement. Parce que quand vous payez le prix de l'ajustement, vous êtes unis. Et quand vous refusez de payer le prix de l'ajustement, vous vivez dans l'isolement. Vous pouvez être dans une même maison, mais vous êtes divorcé. Vous êtes dans une même maison, mais vous êtes isolé. Il faut payer le prix de l'ajustement. Il est question qu'une personne se plie. J'ai dit une personne, ce n'est pas la femme, ce n'est pas le mari. Mais ça peut être l'un des deux. Il est question que quelqu'un se plie, quelqu'un se plonge. Que le problème soit résolu. Et plus vous allez grandir dans votre foi, mieux vous allez ajuster. Plus vous allez grandir dans la foi, moins vous allez avoir des conflits. Parce que la multiplicité des conflits au sein d'un foyer dénote votre immaturité spirituelle. Oui, ce n'est pas compliqué. Plus vous vous bagarrez, plus vous ne vous comprenez pas. On dit que l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vie. Mais c'est plus 10 marier, tu ne vois que. Comment expliquer ça? Tu ne vois que. Si ton conjoint n'a pas changé, toi, au moins change. Change la façon de le voir. On est d'accord pour ça. Si je prends une porte, je tiens le. Les élévations de voix, mais chacun connaît la position de l'autre. Chacun respecte la position de. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, non? Moi, j'ai fait 12 ans. Il y a 2 ans que j'ai fait vivement dans le mystère de la famille. Pas que dans les 12 ans, je ne travaillais pas dans la famille. Je travaillais dans la famille de parents. Mais maintenant, j'ai fait dans la famille de façon. Spécifique. Et c'est là où je comprends pourquoi j'étais passée par les difficultés. Il voulait bien me. Il veut aussi bien te bâtir. Si tu veux, si tu lui donnes la possibilité, tu es un gentleman, il ne te force pas, il ne t'impose rien. Il met la vérité devant toi. Il te dit choisis cette vérité-là, elle va te bâtir, elle va. Entre le père et la mère, là, ça ne va pas. C'est une sorte de guerre froide. Parfois, de toi. Dans la chambre. Et vice versa. Quand il sort, il pose l'argent là-bas. Quand il en a, il ne dit rien à la personne. Vous allez vivre comme ça jusqu'à. Jusqu'à quand est-ce que vous allez cohabiter? Arrêtez de cohabiter comme deux frères ou deux sœurs qui vivent à. L'un paye l'eau, l'autre paye la lumière. C'est pas ça le mariage. C'est que vous mettez ensemble tout ce que vous avez et vous réalisez ce que séparé, vous ne pouvez pas réaliser.
Seigneur Jésus.
Une autre possibilité, c'est que la corde peut se couper.
Besoin que tu agis dans ma
oui.
Vie.
Chacun tombe et les pieds sont en l'air.
J'ai besoin de.
On va dire que yeah, c'est le couple qui était modèle là. Non, c'est pas eux. Les voilà, ils sont en train de se bagarrer. Ils sont même en instance de divorce au tribunal. Vous voyez un peu ce que j'ai en train de dire. Et le diable, lui, il est sorti. Il vient, il pique un peu aujourd'hui comme ça. Demain, il vient, il pique un peu là. Il vient, il pique un peu.
Pardon.
Toute la maison là s'écroule.
Ta grandeur, j'ai besoin de.
J'ai eu un couple d'amis comme
ta
ça.
Force, ton
ancien. Il est venu à une conférence
Seigneur,
que j'avais organisée. Monsieur avait 35 ans, la femme 32. Ils avaient 40 ans. Ils étaient en instance du divorce.
Seigneur,
c'est le procureur qui me laisse amener. Le procureur qui avait fait le même séminaire toi, un peu avant. Un jeune couple, 5 ans, en 2 ans, 50 ans,
vous avez.
Il leur a dit, j'ai une dernière solution à vous proposer. Allons, il y a une conférence qui est en train d'être organisée. Si vous ne venez pas à cette conférence et que les choses ne changent pas, on va effectivement
agir.
C'est votre histoire. La belle histoire, c'est que lorsque le conférence avait suivi la conférence des couples, il était tellement
excité.
Dans l'ouragan, tu sens que tu sens tellement. Et donc, il voit un couple qui est en train de se séparer comme ça. Il dit non, moi j'ai besoin de faire quelque chose. Quand ils sont arrivés le jour-là, que l'ombre d'elle-même, je te dis, je ne peux pas la regarder dans les yeux. De l'autre côté, la maman, il n'écoute pas ce qu'il dit. Vraiment, c'est un menteur. va se susciter et que l'auteur de sa mort c'était lui, il a déposé la mort. Donc non seulement il devait mourir, mais la femme là ne devait pas avoir la vie sauf, elle ne devait pas avoir la vie sauf, puisqu'elle devait répondre du décès de son mari. On a eu trois entretiens musclés. Aujourd'hui ils sont ensemble et ils ont eu un enfant après. Dit en fait que nous parlons des obstacles, nous parlons des obstacles, n'est-ce pas, à la réalisation du plan de Dieu. C'est juste pour nous signifier en fait que rien n'est impossible à... Le problème là est au-dessus de toi, mais il n'est pas au-dessus de Dieu. Et je voudrais que dès aujourd'hui, tu refuses les conflits au sein de ton couple et que tu t'engages à payer le prix. Moi, j'ai dit à Dieu que je suis mort. Est-ce qu'elle parle encore? Parce que vous allez entendre dans les couples, elle me manque de respect.
Agis dans ma vie.
Elle me manque de respect.
Agis.
Je ne sais pas, vous voyez ce que je suis en train de dire.
Agis.
En fait, nos couples se dissipent. Et même notre vie chrétienne est approximative. T'insulte, tu dis qu'on a aussi insulté Jésus à la croix. Ça n'a rien changé. Vous voyez un peu? Ton mari te torture, tu dis que si c'est pour la gloire de Dieu, je continue encore de t'aimer. Le problème se situe à quel niveau? Où est le problème? C'est nous qui disons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Si nous mourons effectivement, nous, si nous renonçons, il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Charge-toi de ta croix. Chaque jour, suis-le. Mais en toi-même, ta chair là, elle est faible. Ta chair là, elle est faible. Elle est limitée. Mais laisse le libre arbitre à Christ. Donne-lui le pardon. Aimer ta femme. Tu vas pardonner à ta femme. Je me souviens de cette lettre que j'ai reçue. Dans cette lettre, je lui donne le crédit et le pardon. Ça y est. Il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas pardonné. J'ai pardonné ses péchés passés. J'ai déjà pardonné ses péchés présents. Même ses péchés qu'il n'a pas encore commis, j'ai même déjà pardonné. Voyez. Oui! C'est fondamental. Pourquoi tu vas avoir la vie? Pourquoi tu vas avoir les problèmes? Pourquoi tu veux trop réfléchir? Pourquoi tu te pardonnes pas? Quelques questions et après quoi nous allons prier pour ça. Les questions, s'il y en a, les contributions aussi. Dans la salle.
Ta puissance dans ma vie. J'ai besoin de ton esprit, de ta source. J'ai
oui. Besoin. Il y a un doigt ici. L'échec de tout le couple. C'est très profond. Il y a des hommes qui pensent que ils ont réussi malgré leur femme. Voyez un peu ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que pendant qu'ils travaillent à nourrir la famille, à prendre soin de l'épouse, la femme est un obstacle. Vous comprenez ce que je dis? Donc si vous croyez que vous avez réussi malgré votre femme, le couple a échoué. Pourquoi? Moi, je me suis rendu compte que toutes les fois où j'ai une adversité au niveau de mon mari, cette adversité est un atout, est une force qui me bâtit et qui bâtit tout le monde. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire que si je me rends, par exemple, compte que mon mari s'oppose à ce que moi je veux faire et je crois que ce que je veux faire est bon et mon mari n'est pas d'accord, le fait qu'il ne soit pas d'accord est une grande force pour moi, est une grande opportunité pour moi pour faire jaillir la force de Dieu. C'est une opportunité pour moi pour manifester ma nature divine. Je prends encore un autre exemple. Tu peux être une femme et ton mari ne permet pas que tu viennes à l'église. Je prends juste cet exemple-là. Maintenant, si tu crois que ton mari est ton ennemi, c'est très faux. Ton mari n'est pas un ennemi. Même si l'ennemi peut passer par ton mari pour te nuire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que lorsque ton conjoint pose une action, tu dois discerner si c'est ton conjoint qui fait ça ou bien c'est le diable qui l'utilise pour faire ça. Tu vas prier différemment, tu vas agir différemment. Je vous ai dit ici hier qu'il y avait des actions que mon mari posait, je sentais que c'est sa mère qui fait ça. Ce n'est pas mon mari ici. C'est sa mère qui se cache derrière cette... Mais je prie différemment. J'agis aussi différemment. Mais maintenant, je n'ai pas besoin d'entrer en compétition, en conflit avec mon mari. Mon mari n'est pas un concurrent. Donc, je ne peux pas dire que j'ai réussi malgré toi. Non. Que tu sois avec moi ou contre moi, nous avons réussi ensemble. Et c'est même parce qu'il est parfois contre ce que je fais que je réfléchis mieux à mes propres actions. Toutes les fois où j'ai voulu avancer, que mon mari a dit stop, je recule d'abord. Et je consulte Dieu. Même quand je suis convaincue que quand il me dit de stopper, ce n'est pas forcément la bonne réponse. Quand ça peut être mon regard humain, je m'arrête et je consulte d'abord Dieu. Pendant que je consulte Dieu, Dieu peut même incliner son cœur. Parce qu'il a même le cœur de roi, n'est-ce pas? Vous voyez? Ce n'est pas une question, ce n'est pas le moment d'entrer en conflit avec lui. Ce n'est pas le moment d'entrer en compétition avec lui. Et par la suite, je vais me rendre compte que quand j'ai son approbation, je peux mieux m'affirmer sur le plan de l'œuvre. Je peux même mieux m'affirmer sur le plan professionnel. Moi, je travaillais au lycée et mon mari recevait les enveloppes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On dit que monsieur te fait ça vraiment. Il dit, mais c'est de ça qu'il est question. On sent que la femme se sort d'un genre de maison. Et un jour, mon censeur m'a appelé, c'est mon mari qui a pris. Et le lendemain, quand il me voit, je suis avec un professeur de philosophie en salle. Et le censeur de me demander, oh madame de mesure, c'est pas toujours évident de vous obtenir. Je vous ai appelé hier, c'est votre mari qui a décroché. Je dis que c'est sciemment, c'est comme ça que nos téléphones fonctionnent. Quand vous ne pouvez pas me joindre, mes appels sont naturellement référés vers lui. Et vite fait, moi-même je reçois les appels directeurs. Je ne viens pas à joindre monsieur mon mari. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Depuis le jour-là, la femme-là, elle a fait deux femmes. Elle a dit que Naomi, Le téléphone là chez moi, c'est l'instrument d'infidélité. Tente de toucher et tu auras des portes à rentrer. Vous comprenez ce que je veux dire? Le de l'un sans l'autre, c'est l'échec de tout le couple. Si tu comprends les choses comme ça, tu vas beaucoup prier pour ton mari ou tu vas beaucoup prier pour ta... Parce que quand il échoue, c'est que vous deux vous avez échoué. Est-ce qu'on se comprend? Mais dans les familles, c'est comme si elle fait ça. Mais moi, j'ai réussi. Moi, je suis différent. Non, vous êtes devenus un. C'est pourquoi je dis le succès de l'un sans l'autre, c'est l'échec de tout le... C'est l'échec de tout le couple. Non, le mari peut même t'en empêcher d'aller à l'église, mais prie. Quelque chose va se passer. Le miracle de Dieu est possible dans ta vie et dans ton couple. Gagne-le sans parole. Prépare son repas. Mais sois une femme soumise, tu vas le gagner. Moi, j'étais quelqu'un de rigide. Hein? Je ne dis pas de rigoureuse, mais de rigide. Je vivais sous la base des principes forts, sans cloison et tâche. Mais après, j'ai compris que la vie chrétienne, ce n'est pas les principes. C'est une bonne communion avec le Seigneur. Et c'est l'acceptation des différences, des divergences. C'est cette différence-là qui me bâtit, qui m'enrichit et fait de nous des personnes différentes. Vous comprenez? Je vous assure, le premier texte de la soumission, j'ai demandé à mon mari de m'évaluer. Il y a cela 5 ans, j'avais 13 sur 20. Il y a de cela 2 ans, j'avais 16 sur 20. Est-ce que c'est la théorie alors? Le succès de l'un sans l'autre, c'est l'échec de tout le... Il faut qu'on grandisse ensemble. Un genre de choses que je fais aujourd'hui parce que j'ai épousé mon mari. Il y a un genre de choses que lui fait aujourd'hui parce qu'il m'a épousé. Quand il enseigne, on dit que c'est toi l'enseignant ou alors c'est ta femme qui enseigne. Les choses doivent être comme ça. Plus on avance, on doit même se ressembler dans l'unité là, même physiquement. On finit même par se ressembler. Tu peux pas être dans un couple, vous arrivez quelque part, madame, tu bois quoi? Donnez-moi une pierre. Le mari, tu bois quoi? Donnez-moi un vin. Apprenez à avoir même les mêmes goûts. C'est l'idée de Dieu. Oui! Apprenez à avoir les mêmes goûts. Ça vous unit. Ça vous unit. Vous ne pouvez même pas savoir. Asseyez-vous ensemble, au même endroit, au culte. Marchez ensemble. Et à force d'être ensemble, même physiquement, vous vous ressemblez. Vous devenez un. Laissez les conflits. Laissez les distractions. Moi, j'ai depuis près de 5 ans, il n'y a plus de conflits dans mon couple. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de conflits au départ. Voilà. Moi, chacun voulait s'appuyer sur son éducation, sur son background, sur sa façon de voir, sur sa façon de penser. Mais plus on peut grandir dans notre marche avec Dieu, moins il y a des conflits, moins il y a des problèmes. Donc, quand l'un a échoué, c'est tout le couple qui échoue. Parce qu'on m'a dit que c'est la femme de tel qui porte son nom. C'est le mari de tel qui porte son nom. C'est toute l'image du couple qui est dénie. C'est pourquoi tu n'es même pas appelé à mal parler de ton mari. Pourquoi tu mal parles de ton mari? Si ton mari a un problème, va parler à Dieu. À un certain moment, les femmes venaient tout le temps que tata a dormi. Je dis que je ne suis pas Dieu. Parle d'abord de ton mari à Dieu avant de venir me parler de ton mari. D'accord? C'est important. Et le deuxième principe, c'était quoi? Que l'amour là, il est sacrificiel. Et je disais, j'aime réfléchir de façon concrète. L'amour de Dieu, c'est un sentiment. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'il faut démontrer ton amour à ton mari. Donc quand tu rentres le soir là, tu lui achètes un mango. Hein? C'est déjà quelque chose. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la manière de. C'est ça, vous voyez un peu. C'est vrai qu'il faut connaître le langage de son, l'amour de son conjoint. Mais il faut aussi apprendre à donner sacrificiellement. Moi, je connais un monsieur qui a trompé sa femme une fois comme ça. Mais il était tellement déçu comme ça, il est venu dire que, au nom de ce que j'ai trompé ma femme, je vais lui donner 1,5 million. Ce n'était pas qu'il était riche. Ce n'était pas quelqu'un de riche. Je vais même vraiment faire comme ça pour trouver l'argent là. Mais c'est juste qu'il voulait poser un acte sacrificiel qui démontre à sa femme que je ne suis pas en train d'acheter ton amour. Mais je suis en train de demander seulement pardon à genoux, que je ne vais plus jamais recommencer. Vous voyez un peu? Et j'accompagne ça d'une action concrète pour signifier que je ne vais plus recommencer. Vous voyez un peu? C'est important de poser des gestes importants. Et qu'on peut sortir d'ici, un homme donne seulement les clés de sa voiture à sa... Par exemple... Vraiment, je crois que le Saint-Esprit m'a touché pendant l'enseignement. Si voici la carte bancaire, dispose comme tu veux. Vraiment, c'est beau, hein? C'est beau la vie en famille. Moi, j'ai choisi d'être une femme épanouie. Moi, j'ai choisi de bâtir un couple épanoui. Parce que vous comprenez un peu, je paye le prix dans la présence de Dieu. Je m'investis et j'investis dans vous. Vous voyez un peu, parce que je sais que je travaille pour le royaume des... Là où la rouille et la terre même ne peuvent toucher, là, c'est là-bas que je fais ma part d'investissement. Pendant que je parle là, parce que beaucoup peuvent me poser la question que toi-même tu as déjà fait de sacrificiel pour ton mari. Je voudrais dire que la première voiture que nous avons eue, c'était une Mercedes blanche. C'est moi qui l'offre à mon mari. Oui, oui. Oui. Pendant qu'il prend lui sa voiture, il s'en va à l'université, il n'est pas ici à pied à Je suis très contente pour ça. Parce que je vous ai dit que dès le départ, il ne travaillait pas. Ça a fait 7 ans qu'il a pu être employé à l'université de Tchamp et il représentait régulièrement le recteur. Il avait besoin d'un moyen de transport approprié. C'était un outil efficace. Et puis à cette époque, on avait une moto. On avait déjà fait tout l'Ouest avec la moto pour évangéliser. Je me rappelle, la belle histoire, c'est qu'un jour, le pasteur Valérie Chamecoin devait venir me chercher. Cette fois-là, il était en voiture. Il dit que la mère a même tellement marché en moto. Je ne sais même pas si elle va être confortable dans votre voiture. On était en train d'aller à une campagne d'évangélisation pour les économes fidèles et tout ça. C'était un acte sacrificiel. Vraiment sacrificiel. Parce que j'aurais pu dire que comme toutes les autres collègues, je vais aussi un peu tourner le volant là et garer. Mais je croyais sincèrement que mon mari avait plus et que je pouvais faire ce sacrificiel-là comme démonstration de mon amour sans condition. Amen. Oui. J'insiste là-dessus parce que les femmes ont une tendance à croire que c'est toujours les hommes qui vont... C'est toujours les hommes qui doivent... Non! Pourtant, on a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à... Alors, les femmes, quand dans ta dernière fois, tu as fait un don important à ton... C'est quand? C'est très important. C'est très important. Et pour faire le don, et que le don atteigne l'objectif et santé, il est important de connaître le langage d'amour de ton mari. Mon mari, lui, il aime les moments de qualité. Il aime les moments de qualité. Et du coup, si tu l'invites dans un restaurant, d'un certain genre, il est à l'aise. Il est dans la disposition d'écouter ce qu'il n'aurait pas pu écouter s'il avait été dans un autre cadre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais oui, ça c'est très important. C'est bien de connaître ça. Pour ne pas faire des dons gratuits ou sans portée dans votre famille. Donc nous avons vraiment besoin de faire des dons sacrificiels à la hauteur de ce que Christ nous a donné. Dieu nous a donné sacrificiellement son Fils. voyez un peu, et j'ai un fondement biblique, tout ça. Ça dit que dans Jean 3, 16, Dieu nous donne sacrificiellement son fils. Mais dans 1 Jean 3, 16, vous voyez un peu, l'analogie, il faut se mettre un dedans. Le Seigneur nous demande aussi de faire des sacrifices pour les nôtres, et particulièrement pour nos conjoints. Amen.
Amen.
Un doigt. Comme ça, vous la table. Le micro, il y a un autre, c'est le micro. Oui, c'est ici. Ici, oui. Okay. Ah, d'accord. Ok. Au fond, viens, au fond, s'il te plaît, mon ami, au fond là.
Merci, Sandra. Ma question sur le rôle de l'ajustement.
Oui.
Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence?
Merci beaucoup, c'est une question très pertinente. L'ajustement, c'est une concession que l'on fait. Mais l'ajustement n'est pas la compromission. On ne se compromet pas. On reste soi-même. On sait que ce que l'on fait est bon. Et on essaye d'amener l'autre dans le bon côté. Ou alors on sait que ce que l'on fait est mauvais. On accepte l'autre dans cet état de faiblesse. Et on l'aide aussi à surmonter la situation. C'est très important. Ce n'est pas se compromettre. Non. Ce n'est pas renoncer à sa foi. Non. Ce n'est pas essayer de vivre la vie chrétienne de façon approximative. Non. Je vais vous prendre un exemple que j'ai eu à Boya. J'étais à Boya. C'était le pasteur qui avait béni mon mariage qui m'invitait pour enseigner sur des questions essentielles du mariage. Une chose m'a marquée, c'est le témoignage d'une maman qui avait un mari qui était adultère plus. Et que le mari, là, il était toujours dehors, un véritable Don Juan. La maman là a mis ses genoux au sol. Elle a prié. Et elle a prié encore. Vous savez ce qui s'est passé? Toutes les fois où son mari allait dehors, il n'était plus opérationnel. Il n'était même plus fonctionnel. C'est tout, non? Bon, ajuster ne veut pas dire que... Et c'est le mari qui vient même témoigner à la maison. Et qui vient témoigner? C'est le mari. Et c'est comme ça qu'il a été délivré de ces choses-là. Tout simplement. Et aujourd'hui, c'est un couple très équilibré et épanoui. Ils n'ont pas de problème. Vous voyez, elle a aidé son mari sans pour autant se compromettre. Celle qui se compromet, c'est celle qui dit qu'il cherche sa part. Moi aussi, je cherche ma part. Donc, ajuster, ce n'est pas du tout se compromettre.
Bonsoir à tout le monde. Depuis que je suis assis, mon cœur bouillonne en fait au-dedans de moi parce que ces enseignements d'Avantas viennent me bousculer. Il y a de cela environ 4 ans, bon 5 ans, mon épouse et moi, nous passions par des moments très difficiles. Je devais aller à l'école, à la faculté de théologie de Ndongué. Et les conditions de vie en Ndongué étaient très compliquées. Je ne pouvais donc pas vivre en Ndongué avec mon épouse. Et c'est Tata Naomi qui nous a reçus chez elle. Donc mon épouse était à Tian pendant que j'étais en Ndongué et elle était à Tian chez elle. Et pendant ce moment de difficulté, notre présence dans sa maison nous a beaucoup aidés. Je me rappelle que quand elle parlait du sacrifice, ça me revenait très clairement à la tête. Il y avait des sessions de formation des couples qu'elle organisait, où elle se chargeait de payer notre formation pour qu'on soit à cette formation-là. Elle disait, c'est l'argent des biens des enfants que je sacrifie, mais je veux que vous soyez là. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'elle est pour notre couple. Même si nous ne lui avons pas encore témoigné ça d'une manière spéciale, mais je voudrais bénir le Seigneur vraiment pour elle. Et si aujourd'hui, on a pu expérimenter un certain nombre de choses dans notre vie de couple et qu'on connaît une certaine stabilité dans notre vie de couple, je crois qu'elle a été bénie. Je bénis beaucoup le Seigneur pour ça. Ça me brûlait et je disais, je ne peux pas partir sans donner ce témoignage-là et dire merci à Naomi. Demain, le jeune couple que tu accompagnes au mariage aura 9 ans. Demain, le 19 juin.
Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Merci beaucoup au couple Wamba, le pasteur Wamba et son épouse. Je suis très édifiée par leur témoignage. Et ça m'encourage davantage à m'investir et à faire quoi? À investir pour le salut des couples et pour les familles. Est-ce qu'on peut prier? Et je crois que c'est l'anniversaire. On va couper le gâteau ou bien? Bon, il y a plus. C'est vrai, on donne les cadeaux. On a dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à qui reçoit les cadeaux et où, à quelle heure? La maison est où?
Tout ce que je veux, c'est d'être comme toi. Tout ce que je veux, c'est d'être comme toi. Aimer comme toi, parler comme toi, prêcher comme toi, c'est ce que je veux. Vivre comme toi, m'humilier comme toi, me dépouiller comme toi, c'est ce que je veux. Chantons tout ce que je veux, c'est d'être.
Comme lui, tu veux être comme lui. Dans acte 4, on dit qu'ils ouvraient la bouche tous ensemble et ils parlaient à l'Éternel. Parle à l'Éternel, parle à l'Éternel de façon audible. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Dis à l'Éternel que je veux être comme toi, je veux aimer comme toi, je veux servir comme toi, je veux servir ma femme, je veux servir mon mari comme Christ a servi. Dans Matthieu 20, verset 28. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rendant plusieurs. Toi également, tu t'es marié pour servir ta femme. Tu t'es marié pour servir ton époux. De façon sacrificielle. Dis à l'Éternel que je veux être comme toi. Je veux aimer comme toi tu as aimé. Aimer sans rien attendre en retour. Je veux pardonner comme toi tu as pardonné. Je veux aimer sans soupçon. Je veux aimer de l'amour qui ne périt pas. Je veux développer la patience et attendre le temps convenant pour mon conjoint. Attendre le temps convenant pour ma conjointe. Un Pierre 5, 6 dit, humiliez-vous dans sa main puissante, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je voudrais que tu t'humilies devant le Seigneur, que tu déchires ton cœur devant l'Éternel. Oui, s'humilier signifie regarder les autres comme étant supérieurs. Regarder les autres comme étant supérieurs à toi. Regarde ton époux comme supérieur à toi. Ta conjointe comme supérieure à toi. C'est ce que le Seigneur te recommande de faire. S'humilier aussi, c'est considérer les intérêts des autres. Considère prioritairement les intérêts de ta conjointe. Considère prioritairement les intérêts de ton conjoint. Et que tes intérêts viennent par la suite. Souviens-toi du principe de la retenue verbale. Apprends à te taire. C'est l'Éternel de se taire au travers de toi. Souviens-toi du principe de la parole valorisante. Ne parle que lorsque ce que tu dis édifie ton mari, ou édifie ta femme, ou t'édifie toi-même, ou édifie tout le couple. C'est ça le principe de la parole valorisante. Ne dis pas les paroles méchantes. La bouche qui bénit ne devrait pas maudire au même moment. Que les instructions sages soient sur tes lèvres. Le troisième principe, c'est qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Prie pour que le Seigneur te donne de réaliser ça. Parce que par tes forces, c'est difficile. Humainement parlant, c'est même impossible. Mais Christ peut faire ça au travers de toi. Dis à l'Éternel que je veux aimer ma femme comme tu as aimé l'église. Je veux diriger ma femme comme tu as dirigé l'église. Mais je sens que je suis faible. Je sens que je suis limité. Mais toi, tu es illimité. Et je veux fondre. Je veux fondre ma finitude dans ton infinitude. Seigneur, aime ma femme au travers de moi. Dirige ma femme au travers de moi. Éloigne de moi d'être un tyran. Éloigne de moi d'être un dictateur. Mais donne-moi d'incarner l'amour. Donne-moi de vivre l'amour. Que ma présence soit douce. Que ma présence soit agréable. Que je ne dicte pas. Que je n'impose pas. Mais que je consulte ma femme. Malgré ses positions divergentes. Malgré ses positions compliquées. Donne-moi une intelligence renouvelée. Donne-moi une intelligence transformée. Éloigne de moi les faux raisonnements. De croire que je suis le chef à tout prix et à tous les prix. Donne-moi de vivre l'amour, Seigneur. L'amour qui est une nature. Par nature, je suis égoïste. Je renferme tout vers moi et rien pour l'autre. Mais donne-moi d'avoir un cœur pour les autres en général et un cœur pour ma femme en particulier. Un cœur pour ma femme. Donne-moi d'être sensible à ses besoins. Donne-moi de l'aimer tel que tu veux que je l'aime. Et que je sois un témoignage vivant en tant qu'homme. Que nous soyons un témoignage vivant en tant qu'un couple. Je ne peux pas, Seigneur, par mes propres forces. Mais toi, tu le peux. Toi, en tant que femme, dis que la soumission est compliquée. Seigneur, je ne peux pas me soumettre. Mais je veux t'obéir. Donne-moi la force pour me soumettre à mon mari. Donne-moi la force pour t'obéir, toi, le Seigneur. Parce que tu me demandes d'être soumise à mon mari. Accorde-moi la grâce d'admettre que mon mari est le chef absolu et que toi, tu es le chef suprême de notre maison. Tu es le chef suprême de notre famille. Tu es le chef suprême de notre couple. Je te couronne maître absolu et je me soumets à mon mari au nom de Jésus. Donne-moi de ne pas parler pour parler. Donne-moi de ne pas parler pour ne rien dire. Mais mets tes paroles sur mes lèvres. Mets tes paroles sur ma bouche. Afin que ma parole concourt à bâtir ma maison. Et que je ne sois pas l'insensé qui renverse sa maison de ses propres mains. Que je ne sois pas une vierge folle qui manque d'équipement. Mais que je sois une vierge sage avec la lampe toujours remplie d'huile. Toujours à genoux dans la prière, dans la méditation, dans l'étude de la parole de Dieu. Accorde-moi la grâce d'ajuster en tant que couple, en tant que personne. Accorde-moi la grâce de surmonter les difficultés qui se présentent et que les difficultés concourent à édifier notre couple. pour que nous soyons davantage un témoignage vivant. Consacre ton couple au Saint-Esprit. Consacre ta vie de couple au Saint-Esprit. Consacre ta vie de femme au Saint-Esprit. Consacre ta vie d'homme au Saint-Esprit. Consacre tes enfants à l'Éternel. Dis à Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis limité, mais toi tu le peux. Sois le mari à ma place. Sois la femme à ma place. Sois le père à ma place. Sois la mère à ma place. Bâtis mon couple à ma place. Bâtis ma famille à ma place. Saint-Esprit lessive sur le passage, l'orgueil. L'œuvre de la chair, les querelles, les jalousies, les animosités, tout ce qui ne te glorifie pas. Que le Saint-Esprit libère cela. Que le Saint-Esprit estipe cela. Luc 10, verset 19 te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions de ta famille, de marcher sur les serpents et les scorpions de ton couple. Alors détruis les plans de l'ennemi dans ta vie, dans la vie de ton couple. Ésaïe 54, 17 dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élève contre toi sera condamnée. Scelle ta vie dans le sang de Jésus. Scelle ton couple dans le sang de Jésus. Scelle tes enfants dans le sang de Jésus. Consacre tes finances à l'Éternel et scelle vos finances dans le sang de Jésus. Et dis non aux dévoreurs financiers. Dis non à l'argent qui tombe dans les poches percées. Dis non au fait de manger et de ne jamais être rassasié. Consacre les membres de ta famille, centre de formation à l'Éternel. Que le Saint-Esprit descende dans le sol. Que le Saint-Esprit descende dans le sous-sol. Que le Saint-Esprit descende partout et détruise tout appareil de contrôle dans ta maison au nom puissant de Jésus. Proclame avec moi le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Proclame cela. Proclame cela avec assurance. Proclame que le Seigneur te conduise dans les eaux paisibles. Qu'il restaure ton âme à cause de ton nom. Il te conduit à cause de son nom. Il te conduit dans la vallée de la justice. Proclame avec moi que lorsque tu marches même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal car il est avec toi. Ta houlette et ton bâton te rassurent. Proclame que la grâce et le bonheur t'accompagneront et que tu habiteras dans la maison de l'Éternel tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Proclame la paix dans ton couple. Proclame l'unité dans ton couple. Proclame la réconciliation dans ton couple. Proclame la prospérité spirituelle dans ton couple. Proclame la prospérité matérielle dans ton couple. Je voudrais que tu scelles chacun de tes enfants dans le sang de Jésus. Tu scelles chacun de tes enfants en les appelant par leur nom. Scelle chacun de tes enfants dans le sang de Jésus. En te rappelant du plan de Dieu. Le plan de Dieu pour chacun des enfants. Les missions de Dieu pour chacun de ses enfants. Les projets de Dieu pour chacun de ses enfants. Proclame la réalisation de la destinée de Dieu pour chacun de ses enfants. Proclame l'échec du plan de l'ennemi dans la vie de chacun de tes enfants. Scelle la destinée de tes enfants dans le sang de Jésus. C'est la destinée de tes enfants, la destinée selon Dieu, ce que tu as prévu pour chacun d'entre eux, pour tes enfants, pour tes futurs enfants, dans le sang de Jésus. De tes enfants, que le Seigneur change leur cœur de pierre en cœur de chair, qu'ils grandissent dans la connaissance de Christ. Proclame qu'ils ont la tête et non la queue.
C'est le doux Jésus qui agit dans ma vie. C'est le doux Jésus qui agit dans mon âme.
Comme à la Pentecôte, il y a eu effusion sur les disciples, les apôtres. Proclame maintenant que l'effusion descende dans ta maison. Que l'effusion descende sur ton conjoint. Que l'effusion descende sur toi-même. Que l'effusion descende sur ton couple. Que le Saint-Esprit descende selon Luc 11, verset 13. Que si méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, qu'en est-il de moi si vous me demandez le Saint-Esprit? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Dis à l'Éternel, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis mon conjoint du Saint-Esprit. Remplis mon couple du Saint-Esprit. Remplis chacun de mes enfants du Saint-Esprit. Et que nous manifestions la gloire de ton Saint-Nom. Que nous soyons des ambassadeurs de Christ partout où tu vas nous envoyer. Dis merci à Dieu. Rends-lui grâce. Quelle que soit la situation de ton couple, dis-lui merci. Parce qu'il est au contrôle. Il va continuer à se révéler à toi. Par des visions, par des songes, par les dons spirituels. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as visités. Merci parce que tu as fait le dépôt dans chacun de nos cœurs. Merci parce que tu as restauré nos vies. Merci parce que tu as restauré nos couples. Merci parce que tu as restauré nos familles. En ce moment, je confesse que nous allons concilier avec brio l'excellence sur le plan spirituel, l'excellence sur le plan familial et l'excellence sur le plan professionnel. Je confesse au nom puissant de Jésus que nous allons aller et que nous allons faire de toutes les nations des disciples en faisant de nos maisons de véritables centres de formation. Saint-Esprit, fais-le au travers de nous parce que nous sommes limités. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.